prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, je bâtirai mon église.
On va ouvrir notre Bible, si vous voulez, on va suivre. Faire lecture d'un premier texte, si vous voulez bien. Premier texte dans l'évangile de Matthieu. Alors, c'est une question que nous allons tâcher de, à laquelle nous allons tâcher d'apporter une réponse. Alors, ça devrait pouvoir se faire. Matthieu, chapitre 16, s'il vous plaît. Et verset 17, Matthieu, chapitre 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, entendez par là, eh bien, l'humanité, la nature humaine, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi je te le dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Une deuxième lecture, si vous voulez bien, nous allons la faire dans l'Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, et verset 14, écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement, ou d'autres versions, c'est le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà la situation sur laquelle nous allons nous arrêter un mot qui revient trois fois, une fois dans notre première lecture, deux fois dans la seconde. L'avez-vous deviné? Ou l'avez-vous remarqué plutôt? C'est le mot « église ». Oui, le mot « église ». Jésus dit « je bâtirai mon église ». Alors, j'aimerais peut-être développer avec ce que nous enseigne l'Évangile, ce que nous enseigne de ce qu'est l'Église, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. On l'a souvent vu à travers les siècles, une Église en déconstruction, excusez-moi du terme, parce que celui qui l'a suscité, il construit son Église. Il nous a bien dit « je bâtirai mon Église ». Il n'est pas question de la déconstruire, il est question de la construire. Et une troisième chose que j'aimerais souligner cet après-midi, quelle idée, je dis bien, quelle idée le monde d'aujourd'hui se fait de l'Église. Alors là, c'est tout un programme. Hein. Tout un programme. Pour beaucoup, c'est une institution. Oui. Pour d'autres, ils le voient comme un empire. Eh oui. Un empire qui règne moralement, spirituellement sur le monde. Pour d'autres, eh bien, c'est une référence morale. Pour certains, ils la considèrent comme une domination sur les hommes. Enfin, beaucoup de choses comme ça. En tous les cas, une chose que je comprends, c'est que dans le grec, le mot « église », c'est « ecclésia ». Et le sens qui est donné, c'est tout simplement « appelé hors d'eux ». Si vous voulez, on peut le préciser, « appelé hors du monde ». Voilà, tout simplement. Ça, c'est la signification. Jamais dans la Bible, ce terme désigne un bâtiment. Désigne un bâtiment ni un lieu de culte particulier. C'est autre chose. La définition serait la suivante. Tout simplement, c'est la communauté, écoutez bien, c'est la communauté de tous les croyants unis par les liens de la foi. Cette foi, on va la définir, ce qu'elle est. Et pas une foi vague, une foi qui repose sur une personne. Une personne vivante, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Chaque croyant dans cette Église qui appartient à Jésus-Christ, que l'on appelle l'Église chrétienne, naturellement, ça coule de source, chaque croyant y est introduit, non par la naissance naturelle, ou par tout simplement une filiation familiale naturelle, mais, on l'a lu dans la Bible, par... Et selon le modèle du Nouveau Testament, par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'enfants, il ne s'agit pas de nouveau-nés, il ne s'agit pas de personnes qui, tout simplement, eh bien là, dans une aspiration ou dans une continuité de je ne sais quoi, eh bien, rentreraient dans cette communauté qu'est l'Église. Mais on l'a bien dit, tout simplement, par une rencontre avec Jésus-Christ, une foi vivante fondée sur la personne de Christ et sur sa parole. Ouais. Ça, c'est l'essence même de l'Église et, conséquemment, par un engagement libre et conscient, ce que l'on appelle le baptême des adultes. Voilà. Hein, c'est comme cela que les choses sont présentées dans le Nouveau Testament. Et on pourrait peut-être ajouter, si nous voulons donner une première conclusion, ça pourrait être d'abord... C'est un christianisme qui se caractérise par une expérience pratique et personnelle. Voilà, je suis chrétien parce qu'un jour dans ma vie, quelles que soient les circonstances, eh bien, j'ai été ceci ou j'ai été cela, et j'ai entendu l'appel de Dieu, j'ai rencontré Jésus-Christ, et ma vie a changé. Et de cela, eh bien, je me suis engagé à le suivre parce que j'ai bien compris que son appel... C'était pas quelque chose de passager, c'était quelque chose qui devenait pour moi une nécessité de vie, d'existence tout simplement. Alors, on sait très bien qu'il y a un seul chef et un seul sauveur dans l'Église. Il ne s'agit pas d'une succession d'hommes qui se diraient vicaires de Christ ou autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas évangélique. Jésus nous est présenté comme la seule et unique autorité. Et l'Évangile qui est annoncé est conforme ou a inspiré tout simplement eh bien, l'Église, ce que l'on peut appeler l'Église apostolique, c'est-à-dire l'Église des apôtres, où il n'y a pas d'organisation, on l'entend, où il n'y a pas de clergé, on l'entend aussi, où il n'y a pas de structure extérieure, mais qui se caractérise par une vie intérieure, une vie spirituelle, une vie morale et spirituelle intérieure, et j'ajoute ceci, profonde, ce n'est pas superficiel. On n'est pas chrétien parce qu'on va à la messe de temps en temps ou on va au culte, on n'est pas chrétien parce qu'on dispose d'une Bible dans sa maison, parce que de temps à autre, eh bien là on fait quelques prières, ou on accomplit quelques devoirs de conscience, c'est pas ça. C'est quelque chose qui va bien au-delà de cela. Si l'on considère l'histoire de l'Église à travers les siècles, et il y en a eu quand même quelques-uns, puisque nous sommes maintenant au XXIe siècle, on observera ceci, on observera son cheminement descendant, excusez-moi, hein, parce que le contraire c'est ascendant. Celui qui a institué l'Église, celui qui en est le chef, eh bien, il dit bien « je bâtirai mon Église ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'élève, quelque chose qui se construit, quelque chose qui s'édifie, quelque chose qui nous laisse l'image de la prospérité, de la bénédiction, de quelque chose qui, finalement, eh bien, gagne des cœurs, gagne des vies, gagne du terrain. Alors que lorsque nous prenons dès le départ ce qu'a été l'Église du premier siècle, des premiers siècles, les apôtres, et puis tous ceux qui l'ont perpétuée, et jusqu'à nous, on s'aperçoit qu'on a affaire plutôt à une Église qui descend, c'est-à-dire qu'elle perd sa substance. Elle s'éloigne de la source pour devenir finalement que, excusez-moi, mais une caricature, une contrefaçon et un ersatz. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 18, vous comprenez ce que ça veut dire. Parce que là, elle change de nom radicalement. Et je n'ose pas dire le nom qu'elle porte au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Vous vérifierez vous-même comment elle est appelée. Mais ça, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église des hommes. C'est l'Église que les hommes ont voulu qu'elle soit, tout simplement. Alors, les premiers temps, on l'a appelée l'Église apostolique, ou communément, dans nos milieux, l'Église primitive. Tout simplement, la première, on pourrait, c'est plus simple encore. Parce qu'elle se caractérisait par la puissance de la vie, la puissance de l'esprit, la puissance du miracle, la puissance des guérisons, la puissance du surnaturel, la puissance tout simplement de Dieu. Puissance de Dieu, avec une propagation dans tout le monde connu d'alors. Alors naturellement, ça a été d'abord Jérusalem, ensuite ça a été la Judée, ça a été la Palestine, et puis après les pays voisins, et ça s'est amplifié au fur et à mesure. Quand on arrive déjà au ministère de l'apôtre Paul, eh bien il y a déjà une grande partie du bassin de la Méditerranée qui est déjà conquise par le christianisme. Et à quel prix, hein ? Mais ça se développe, c'est l'Église de Jésus-Christ, elle se développe, elle prend de l'ampleur, elle gagne des âmes, il y a des vies qui sont sauvées, des malades qui sont guéris, des hommes dont la vie est transformée, elle gagne, elle construit. Elle s'édifie, Jésus nous parle de bâtir. Voilà. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Et on connaît toute la suite. Et dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, il nous est fait un commentaire extraordinaire et formidable de ce qu'est l'Église dans les premiers temps, dans les premiers jours. Certes, avec des persécutions. Certes, avec toutes sortes de choses dont nous allons parler maintenant. Ensuite, est venue une autre phase de l'Église de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle l'Église persécutée. Alors l'Église persécutée, c'est la même que celle que nous venons de citer, mais qui a eu à connaître des temps extrêmement difficiles. À cause de la foi, à cause de la foi vivante, et d'une foi et d'une persévérance. Alors ça a été l'époque de l'Empire romain, avec cette opposition farouche, cette destruction systématique de cette foi nouvelle qui allait envahir le monde, et on connaît naturellement de sinistre mémoire la persécution des premiers chrétiens. Les arènes, les bêtes fauves, les catacombes pour se cacher, etc. etc. Ça, c'était une... Mais la foi était une foi vivante. Le sang des martyrs, eh bien, facilite la progression de l'Évangile. C'est ce que l'on dit. Ensuite, est venue une troisième phase, c'est ce qu'on appelle l'Église triomphante. L'Église triomphante est arrivée, est apparue aux environs du IVe siècle, et elle a changé de visage. C'est là où elle a commencé de visage, sous tout simplement l'égide d'un grand empereur romain qui s'appelait tout simplement Constantin. Et lui a dit, au lieu de persécuter cette Église, eh bien moi cette Église, je ne vais plus la persécuter, je vais la séduire. Voilà, il avait changé de tactique en quelque sorte. Ça posait trop de problèmes à l'Empire et à l'Empereur. Il s'est dit, ben voilà, nous l'avons privé de tout, nous allons tout lui donner. Nous l'avons persécuté, nous allons la choyer. Nous l'avons complètement rejeté, nous allons la prendre maintenant au sein de l'État. Et apparemment, ça semblait un triomphe, mais c'est un véritable déclin. Ça a été une véritable catastrophe, une défaite et un déclin. Et après, nous pourrions dire, 2 siècles de feu et de sang contre les chrétiens, ils se sont retrouvés dans une situation privilégiée en disant « Mais maintenant, le monde ne nous combat plus, le monde nous accepte, c'est formidable, nous allons à la conquête du monde ». Ce qu'ils avaient oublié à ce moment-là, ceux qui se sont laissés séduire, c'est qu'ils n'allaient pas à la conquête du monde, c'était le monde qui était à leur conquête. Et qui allait justement les mettre tout simplement, excusez-moi, mais à genoux, mais pas pour prier, hein, pour s'adorer soi-même. Et ils vont devenir, les premiers chrétiens, à partir du IIIe siècle, tout simplement, ils vont devenir des citoyens respectés et respectables. Et c'est à ce moment-là que le christianisme devient une religion officielle, comme on le voit dans bien des pays, hein, comme jusqu'à nos jours et même encore aujourd'hui, même si nous sommes dans une société laïque, néanmoins, on peut reconnaître que le christianisme dit catholique est quand même la religion officielle de la France. Hein. Ça a été pire il y a des siècles auparavant, sous l'Ancien Régime c'est autre chose. Là c'était plus que la religion officielle, hein. C'était la religion obligatoire. Enfin bon, peu importe. Et elle va être reconnue et protégée. C'était les périodes, finalement, où on pouvait se dire maintenant, tranquille, c'est bon, c'est très bien. Mais il y a eu un phénomène quand même à souligner, c'est que les persécutés d'hier sont devenus les persécuteurs d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Enfin, d'aujourd'hui, je parle pour le temps, hein, naturellement. Persécuteurs, finalement, de leur temps. Et l'Église victorieuse, de terrible répression, succombe à la séduction. Et ils vont avoir les honneurs, on l'a dit, la gloire, les pompes, l'introduction des idoles païennes, et un tournant dangereux va être pris. Il n'y a plus de conversion à ce moment-là. On pourrait parler d'adhésion, tout simplement, d'adhésion massive. Ce n'est pas les hommes qui vont choisir les uns et les autres, chacun pour sa part, mais on va dire, eh bien maintenant, vous êtes tous chrétiens. Et la conquête, finalement, à cette époque de l'Empire romain et après, alors on est allé par tout le monde. Et on y est allé avec, finalement, les armes, les armées, et tous ceux qui ne voulaient pas se convertir au christianisme, eh bien, ils étaient baptisés tout de suite. Hein. On leur coupait la tête, on les brûlait, on fait... Exactement. C'était tout simplement, ben, vous connaissez, hein, c'est quelque chose d'horrible et d'abominable, parce que jamais conversion n'a ce sens, hein, naturellement. Donc, adhésion massive, et les gens, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, vous êtes chrétiens, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a remplacé les symboles païens par des symboles chrétiens. On a dit c'est chrétien. On le voit en Bretagne, on le voit un petit peu dans tous les pays. Hein, on a tout ça a été complètement mélangé et ça a été véritablement une catastrophe. Et à ce moment-là, l'Église n'est plus professante d'une foi vivante. Elle devient l'Église de multitude et chacun y trouve son intérêt et on rentre dans le conformisme. Et c'est ce que ça donne, finalement, et bien, même jusqu'à aujourd'hui. Une autre période est survenue, ce que l'on pourra appeler l'obscurantisme du Moyen-Âge. Bien que je fasse une petite réserve, parce que quand on connaît l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que dans le Moyen-Âge, il y a eu aussi des grandes valeurs spirituelles. Hein. Grandes valeurs spirituelles. Mais néanmoins, dans ce que l'on peut, eh bien, considérer, il y a eu une période sombre, hein, où les hommes sont tombés dans la plus sombre des superstitions. L'Église est au centre de tous les grands conflits politiques à ce moment-là, hein, les croisades par exemple, hein, la soif du pouvoir et des richesses, l'intolérance religieuse, la domination absolue des peuples, et on en est arrivé à associer quelque part le politique avec le religieux, ce qui a donné pendant des siècles et des siècles, je crois, jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire que ça remonte très loin, on en est au 4e, 5e siècle, jusqu'au 18e siècle, c'est-à-dire 19e siècle, pardon, jusqu'à ce qu'a été mis en place ce qu'on a appelé le Saint-Empire romain-germanique. Eh oui, dont l'empereur était le prince, l'empereur d'Autriche. Alors voilà, et tout cela régnait sur la vieille Europe. Hein, et c'était une puissance. Et il y a eu l'introduction de toutes les hérésies et des superstitions. Le culte en latin, par exemple. Hein. Nous, on parle en langue, mais vous savez si c'est du latin ou quoi, hein. Le culte, l'adoration des reliques, hein, les images, le purgatoire, et ceci et cela. Il y en a eu des centaines et des centaines. On est loin du christianisme originel. On en est loin. Ça ne ressemble plus à rien. Et puis, il y a eu des soubresauts dans cette église dite chrétienne, qui se dénaturaient, qui se déformaient, qui là, eh bien, n'avaient plus finalement rien de commun avec ce que Jésus avait bâti. C'est cette période que l'on a appelée la réforme et ses douleurs. Vers le XVIe siècle, même avant, un petit peu avant, il y a eu des hommes comme Luther, comme Calvin, Luther en particulier. Il y en a eu Jean Hus. Il y a eu d'autres personnages comme ça qui, véritablement, se sont élevés un petit peu partout en disant « C'est pas possible, l'Église de Jésus-Christ, c'est pas cela. » Et ils ont redécouvert la lecture de la Bible. Ils sont revenus à l'origine. Ils avaient renié le chef de l'Église, ils avaient renié sa parole. Mais là, ils ont redécouvert. Et il y a eu des grandes inventions, comme l'imprimerie, qui a permis la divulgation, la popularisation, nous pourrions dire, eh bien, la connaissance, finalement, de l'Évangile et de Jésus-Christ et de l'Écriture. Alors, il y a eu donc cette période de réforme. C'était l'ouverture des esprits. Les gens ont commencé à lire la Bible. Les gens sont revenus à Jésus-Christ, sont revenus aux sources. Il y a eu des belles conversions, il y a eu des beaux engagements, mais avec des persécutions, naturellement. Parce que c'est à chaque fois, c'est toujours la même chose. Des persécutions, ouverture des esprits. Et puis c'était dans une période où le monde était en train de changer, la période des temps modernes, ce que l'on appelle la Renaissance. Mais attention, période d'humanisme et de philosophie aussi. C'est-à-dire que tout ça, ça a été rattrapé en quelque sorte, tout ce qui partait dans le bon sens pour un retour vers Dieu a été humanisé. Et il y a eu une récupération avec les conséquences suivantes, la perte de l'inspiration des évangiles. Le surnaturel et le miraculeux banni. On s'est dit, mais à quoi ça sert tout ça? Oui, ça ne sert plus à rien. Alors on est retombé encore dans les carcans, finalement, d'avant. Le rationalisme, tout cela. Le christianisme devient une morale. Il n'est plus une puissance, il n'est plus une force, il n'est plus une opération de l'esprit dans la vie des gens. Transformation, une morale, tout simplement. Siècle des Lumières, si vous connaissez naturellement, vous en entendez parler. Religion sans puissance, sans vie, désuète, surannée, qui ouvre la porte à une nouvelle forme de pensée, l'athéisme, qui est venu jusqu'à nos jours. Ni Dieu, ni diable. Vous vous rendez compte? Voilà, quel conflit hein, dans tout ce monde, le monde des hommes, la révélation de Dieu, avec les persécutions, avec la domination, avec des choses épouvantables, naturellement. Alors avec ce genre de philosophie, il y a eu naturellement toutes sortes de choses que l'on appelle aujourd'hui l'évolution, l'évolutionnisme, les sciences, la science, les progrès. Et avec tout cela, on a relégué Dieu au débarras. On s'est dit aujourd'hui, maintenant les hommes sont suffisamment intelligents, on n'a plus besoin de Dieu. Voilà, on n'a plus besoin de lui, ça ne sert à rien. Ça c'est pour les faibles, ça c'est pour les faibles d'esprit, ça c'est pour les petites gens. Mais nous maintenant, nous sommes arrivés à comprendre beaucoup de choses, ben, c'est oublier ce que Jésus avait dit à un moment donné. Parce que quand on continue à lire pour l'Évangile, on tient encore la route. Hein. Jésus a dit, mais je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Jésus avait vu juste hein, dans l'histoire des temps et l'histoire de sa propre Église. Là, on n'est plus à bâtir l'Église, on est confronté avec une Église qui se déconstruit, hein, en quelque sorte. Hein. Lorsque Jésus a fait son apparition en Palestine, il a stigmatisé l'état religieux de son temps, c'est-à-dire l'état religieux d'Israël, avec le ritualisme, avec les traditions, avec l'abandon des commandements de Moïse, enfin pour les Juifs naturellement, toute l'hypocrisie des pharisiens, le sectarisme, ce qui fera dire à Jésus, eh bien dans ce chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, il fera un réquisitoire sévère contre tout ce qui est apparence. Et qui n'est pas vérité. Il dira aux pharisiens, vous êtes une bande d'hypocrites. Vous faites les choses par l'extérieur, mais finalement, eh bien, à l'intérieur de vous-même, Dieu n'existe plus. Dieu n'existe pas. Ce sont des formes, tout ça. Alors, le christianisme a vieilli, on l'a vu, hein, j'ai passé très rapidement, il vient de passer 21 siècles. Hein, enfin, 20 siècles. Hein. Il a vieilli. Et nous en arrivons au deuxième texte que nous avons lu, nous en arrivons à l'église de Laodicée. Parce qu'elle est le type même, elle est le cliché, elle est le schéma de l'Église d'aujourd'hui. Écoutez bien. Cliché exact de ce qu'est le monde religieux au XXIe siècle. Voici ce que dit l'Amen lorsque nous reprenons Apocalypse chapitre 3. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Voilà. Quand Jésus a lancé dans sa carrière l'Église chrétienne, elle était bouillante. Aujourd'hui, même si le climat se réchauffe, réchauffement de la planète, en tous les cas, c'est plutôt de ce côté-là. Spirituellement et moralement, on glisse vers les pôles. Hein. Enfin, les pôles, hein, d'accord. Oui, ça se refroidit, hein, sérieusement. Hein. On est bientôt sous le cercle arctique. Là. Notre temps, comme jamais auparavant, se caractérise par la désaffection de la foi. J'entendais quelques statistiques. On en est aujourd'hui une nation comme la France, qui était une nation, quand même, somme toute, avec ce respect de Dieu. On en est à, je crois, 15% de gens qui encore, 15-20%, au grand maximum, qui déclarent croire en Dieu aujourd'hui. Eh oui, c'est pour vous dire qu'on en a laissé en route, hein. Parce que 20%, ça fait quand même un pourcentage qui est quand même assez inquiétant. Et on peut parler aujourd'hui d'Occident déchristianisé. Vous posez la question aux gens dans la rue, est-ce que vous croyez en Dieu ? Attention, hein, risquez de vous faire boxer. Hein, parce que c'est pas une question à poser. On vous dira, eh bien ça c'est quelque chose de personnel. Hein, mais c'est de l'athéisme pratique, tout simplement. Et où on peut toucher vraiment du doigt l'indifférence générale hein, de notre temps. Alors si déjà, nous qui sommes arrivés à un certain âge, nous avons eu encore une éducation religieuse, je peux vous dire que nos enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont avoir hein? Nos petits, nos enfants. Où tout est marqué par une certaine insensibilité, et nous le disions tout à l'heure, par la froideur, par la tiédeur. Et ça, c'est le contraire de la ferveur, tout simplement. Où les gens, tout simplement, vont rester dans l'indifférence et dans la neutralité en disant « Mais moi, bah oui, comme on le disait tout à l'heure, ni Dieu ni diable, ni bien ni mal, ni erreur ni vérité, ni lumière ni ténèbres. » Voilà, on en est là. Qu'est-ce que nous dit Jésus sur ce propos ? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, il dit ceci, « Mais lorsque je reviendrai, parce que Jésus revient, hein, si vous ne savez pas, je le dis, hein, c'est pareil, la parole qui nous dit, « Trouverai-je encore de la foi sur la terre ?» Oui. Dans Timothée, il est dit ceci, au chapitre 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns... abandonneront la foi. » C'est un euphémisme, hein, le « quelques-uns ».« Quelques-uns abandonneront la foi. » Encore dans Timothée, mais la deuxième lettre à Timothée, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi ? Parce que les hommes auront l'apparence de la piété, auront l'apparence de prétendue religion ou de la foi, mais ils en renieront ce qui fait la force, c'est-à-dire une vie pratique, une vie engagée, une vie conséquente avec des fruits. » Être chrétien, c'est avant tout en faire la démonstration. Je suis chrétien et que je manifeste l'agressivité des paroles qui sont des paroles de destruction de ceci et cela. Alors là, il y a vraiment un problème qui se pose. Hein. Enfin, le problème ne se pose pas, c'est clair. Les faux-semblants, ce que Jésus condamnait dans l'Évangile très souvent. Les apparences, ce qu'il appellera naturellement, eh bien, d'une comédie hypocrisie. Où il n'y a plus qu'une du vernis, et qu'il n'y a plus qu'une étiquette. Parce que la vraie force du christianisme, ça commence par la repentance, prise de conscience que l'homme est perdu dans ses péchés, qu'il est mort dans ses péchés. Ensuite, prenant cette disposition, il y a naturellement cette foi qui nous porte vers Dieu, qui nous amène à nous convertir, qui nous amène à obéir à sa parole et à l'accepter comme sauveur et seigneur de notre vie. La déchristianisation synonyme de paganisme, qui amène à la magie, qui amène à l'occultisme, à toutes sortes de réveils, de pratiques ancestrales que nous voyons fleurir dans notre monde aujourd'hui de plus en plus. En Bretagne, on est très fort avec une certaine religion du terroir, c'est le druidisme qui se développe de plus en plus. Dans d'autres régions, ça sera autre chose. On revient à des pratiques qui, on avait pensé peut-être, ou qui avaient semblé disparaître et qui, quelque part, eh bien, sont encore là, et qui reviennent. Tout ce qui se passe dans d'autres, sur d'autres continents, avec la sorcellerie, avec toutes sortes de choses. Alors, il y a le druidiste, mais il y a toutes sortes de pratique magique. Mais au verset 16 de l'Apocalypse, il nous est dit ceci, « Je te vomirai de ma bouche, dit Dieu. » Et c'est une expression qui marque le dégoût de Dieu, qu'inspire la tiédeur et la fadeur. Voilà. Hein. Le non-engagement, le désengagement, ou tout simplement l'indifférence. Cette position qui, finalement, ne veut rien dire. Parce que quand on sait quelque chose, quand on veut quelque chose, eh bien, on se donne à ça, parce qu'on y croit. Mais comme on ne croit plus en rien, alors les gens sont... Ils ne savent plus. Ils sont véritablement ce que Jésus dira à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi allez-vous l'assaisonner? On va remettre du sel sur du sel? Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Le sel ne vaut plus rien à ce moment-là. Et il nous est dit qu'il est bon à être jeté en terre, à être foulé aux pieds, parce que un sel qui ne sale plus, eh ben ce n'est plus du sel. Ça n'a plus rien à voir. Et un chrétien ou un christianisme qui n'apporte plus la vie, qui n'apporte plus le dynamisme, qui a perdu sa joie, qui a perdu sa paix, qui a perdu cette force, alors à ce moment-là, c'est plus le christianisme. Et on le voit, il suffit de regarder des braves personnes que nous respectons au demeurant, mais qui se proclament chrétiens, et on voit que finalement, eh bien, dans leur expression, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'espérance même. Et quand les gens les regardent en disant, bien, tout sauf devenir chrétien comme eux. Parce que ce n'est pas un exemple, ce n'est pas un témoignage. Ils ont perdu leur goût. Et ce qui donne du goût au sel, c'est parce que finalement, eh bien, hein, ils stimulent naturellement. « Parce que tu dis, nous dit toujours le texte, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et voilà que Dieu fait un diagnostic précis de l'Église des derniers temps. » On a parlé de l'Église des premiers temps, qui était vivante, qui était pleine d'enthousiasme et de dynamisme. Mais là, l'Église des derniers temps, eh bien, c'est ça. Tu te dis que tu es ceci, que tu es cela, que tu as ceci, que tu as cela. Mais moi qui vois du haut du ciel, finalement, non pas l'extérieur, mais ce que tu as à l'intérieur, eh bien, moi, je vais te dire, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu, et tu te leurres toi-même. Tu passes pour être vivant, mais il n'y a aucune vie en toi. À cause d'une chose. À cause du sentiment de suffisance. Et le sentiment de suffisance, ça s'appelle d'un autre mot que tout le monde connaît, c'est l'orgueil. L'orgueil, eh oui. Tu dis « je suis satisfait ». Tu dis « j'ai de belles cérémonies, j'ai de grands rassemblements, j'ai une théologie très élaborée, je me donne à des actions sociales et humanitaires mondiales, je proclame et dans ma bouche il n'y a qu'un mot, c'est le mot de la paix ». Mais ce n'est pas d'avoir tout cela qui compte, c'est d'être. C'est d'être. Et quand on voit aujourd'hui les grandes religions qui nous entourent, qui ont perdu leur substance même, et qui ont oublié la parole que Jésus nous donne, nous dit, alors à ce moment-là, c'est vrai que le déploiement ne se fait plus vers l'intérieur, il se fait vers l'extérieur, avec toutes sortes de choses qui en mettent plein la vue, mais derrière c'est vide. Il n'y a plus de conversion. Il n'y a plus de prise de conscience, finalement, que les gens sont des pécheurs, pour qu'ils se repentent. On leur donne à manger, on leur donne des vêtements, on va leur envoyer, je ne sais pas moi, des vivres par les avions qui vont envoyer toutes sortes de choses. Là. C'est bien tout cela, c'est vrai. C'est bien, on ne va pas dire le contraire. Il faut aider les gens. Et il y a un principe qui est la charité dans le christianisme. Mais si on ne donne pas la substance même avec ce qui l'accompagne, eh bien les gens vont manger un jour et ils vont mourir le lendemain. Alors que finalement... La démarche qui est faite, et la démarche qui a été faite dans l'Église première, c'est qu'ils apportaient d'abord la parole et ils donnaient la suite. Et les gens après apprenaient à se remettre le pied à l'étrier dans une vie sociale. Et ils travaillaient, ils revenaient à ceci et cela, etc. Ils refaisaient une vie nouvelle. Mais aujourd'hui, on maintient les gens finalement sous perfusion, en quelque sorte, dans leur misère, tout simplement. L'assistanat, ça existe, hein ? Mais il faut leur donner plus que ça. Assister les gens, oui, mais il faut leur donner aussi le goût de la vie. Il faut leur donner une autre vision de la vie. Il faut leur donner le tchatch, l'enthousiasme qu'apporte la foi, le christianisme réel, opulence matérielle. Tu dis « je suis riche ». À travers tout ce déploiement extérieur qui cache une profonde misère de l'âme, vous savez, on pourra toujours donner aux gens tout ce dont ils peuvent désirer, aspirer, etc., convoiter même. Mais... Si leur cœur n'est pas rempli, hein, qu'est-ce que ça va donner? Ils seront encore malheureux, ils vont essayer, ils vont goûter, ils vont peut-être se substanter pendant un moment, puis au bout d'un certain temps, ils diront, Ben, il m'en faut encore davantage, il m'en faut encore davantage, à l'image de la Samaritaine, naturellement. Parce que tu ne sais pas que c'est l'image d'un monde qui est dans une profonde détresse et dont le christianisme est totalement incapable de résoudre les problèmes, et ça devient des phénomènes de société. Eh oui, incapable. Et on tourne en rond, vous savez, comme les Hébreux dans le désert. Hein. Vous savez pourquoi les Hébreux tournaient dans le désert? C'est qu'ils avaient perdu la foi. Jusqu'au moment où ils l'ont retrouvé, à un moment donné. Et c'est ça le monde dans lequel on est, naturellement. Phénomène de société. Fruit d'une société qui a perdu le sens, qui a perdu l'espérance, qui a perdu l'amour, qui a perdu véritablement les vraies valeurs et les vrais repères. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne le racisme. Ça donne tout ce que nous pouvons connaître de division en tout genre, à commencer par la division des nations, la division des hommes, la division de ceci, la division de cela, en commençant aussi par la division des couples. Jamais il y en a eu autant. La faillite familiale, la délinquance, la drogue, l'alcool, toutes les dépravations, les angoisses, etc. Tu ne sais pas que tu es aveugle et que tu es nu, nous dit le texte. Et voilà. Et Dieu pourrait dire au monde d'aujourd'hui, dans ces illusions de christianisme, alors tu peux changer le monde, alors que c'est toi qui as besoin de changer de l'intérieur. Et après, tu changeras le monde. C'est ça la grande différence. Mais comme on prend les choses à l'envers, et comme on met, soi-disant, la charrue devant les bœufs, ça c'est une expression, hein. Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de charrues ni de bœufs, mais on comprend ce que ça veut dire. Parce que ça tire mal quand vous faites le contraire. Hein. Et bien, c'est la même chose. C'est qu'on prend les choses à l'envers aujourd'hui. Et le problème et le résultat, finalement, eh bien, nous l'avons devant nous. C'est toi qui as besoin de changer. Ton intérieur change. Et tu changeras le monde, et tout le monde changera. Vous savez, une des plus belles expériences que l'on fait, c'est la conversion à Jésus-Christ. On arrive à Dieu, il nous appelle, on lui répond. Et jusqu'alors, nous avions une vision qui était souvent épouvantable. Enfin, moi, c'était mon expérience que j'ai faite. Et le jour où je me suis converti au Seigneur et qu'il a changé mon cœur, j'ai vu le monde d'une autre manière. Ouais, avec des yeux neufs, avec un cœur neuf, avec une âme qui avait été lavée, qui avait été purifiée. Avec une mentalité qui était tout autre, des pensées qui étaient tout à fait différentes. C'est ça que nous avons besoin, et tant que nous voulons mettre encore la main à la pâte pour changer ce monde, mais on est devant un océan infini, on n'en finira jamais avec tout cela. Verset 18, Dieu propose trois choses pour guérir le malade. Le malade que nous sommes, le malade c'est notre monde, un monde qui se dit chrétien mais qui ne l'est pas dans la réalité. Alors je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, je te conseille d'acheter de moi cet or, éprouvé par le feu. Quand il est dit d'acheter, je voudrais vous dire tout de suite que quand Dieu dit c'est acheté, il nous dit que c'est gratuit, donc ça ne coûte rien. On est d'accord. Mais au prix du sacrifice de nos illusions. Hein. Voilà. C'est le sacrifice de nos illusions, et les hommes se bercent d'illusions. Et l'histoire de l'or éprouvé par le feu, c'est l'emblème de la foi. Non pas une vaine croyance, mais une foi positive en Dieu pour les petites et les grandes choses de la vie. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. La foi, c'est ça. La foi rend possible l'impossible. La foi nous permet de vivre dans un monde, peut-être, qui est un monde difficile, compliqué, mais elle nous donne de vivre dans une dimension où nous sommes libérés, où nous avons une vue qui est tout autre. Oui, tout autre. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La vraie foi produit toujours une transformation. On change de vêtements, vous comprenez, hein? Voilà, une nouvelle nature, une nouvelle naissance, parce que nous avons besoin de pardon, nous avons besoin de purification. Et si nous voulons continuer à vivre avec nos anciens habits, avec nos oripeaux de misère, nos illusions religieuses de mérite, de qualité d'homme et tout cela, eh bien nous allons passer à côté de la grâce et de la bénédiction de Dieu et du salut de Dieu. Parce que Dieu a tout fait et nous voulons faire tout à sa place. Alors on peut continuer comme ça, on n'y arrivera jamais. Mais par contre, s'il nous donne des vêtements blancs, qui est l'image de ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire dans son sacrifice expiatoire, alors à ce moment-là, eh bien, les choses changent, elles sont nouvelles. Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux. Il s'agit de l'aveuglement spirituel, moral et spirituel. Seule l'action du Saint-Esprit illumine la vie d'un homme. Et Paul l'avait bien compris, parce que quand il écrira à ses amis d'Éphèse, il dira « Je ne cesse de prier pour vous, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Vous savez que vous aviez des yeux à votre cœur? Ouais, on en a dans la tête, mais il y en a aussi dans le cœur. C'est-à-dire, c'est la compréhension, c'est la perception, c'est l'acuité spirituelle des choses par l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est une vie nouvelle. Oui. L'homme qui ne connaît pas Jésus, l'homme qui marche sans la foi en Dieu, sans espoir en Dieu. La Bible nous dit que c'est un aveugle, parce que la vue, elle est faite pour nous diriger. Et on peut bien avoir des yeux et puis se tromper. Mais par contre, quand Dieu illumine les yeux de notre cœur, on sait ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, je ne veux pas faire tous les contrastes. Mais une chose qui est certaine, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous inspirer. La parole de Dieu que nous connaissons et que nous lisons est une lumière pour chacun d'entre nous. Et cette lumière nous fait marcher dans la vérité. Pas notre vérité à nous, pas la vérité de nos illusions, pas la vérité d'une religion. La vérité qui nous est donnée à travers la personne de Jésus, puisque lui-même s'est déclaré la vérité. Il nous fait marcher sur son chemin, il est le chemin lui-même. Et comme il est la vie, eh bien, il nous communique sa vie. Et on peut dire que eh bien, nul ne peut venir au Père que par lui, tout simplement. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Jean, chapitre 16, verset 13 de son évangile. « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Je voudrais vous dire que l'Esprit de vérité est venu. Que l'Esprit de vérité, ça fait 2000 ans qu'il est au milieu des hommes. Mais est-ce que les hommes ont pris part, ont pris conscience et ont pris intérêt à la vérité de ce que nous disait Jésus? Alors des hommes qui se sont dit venir avec la vérité, il y en a eu des milliers, des milliers, hein, des dictateurs, des chefs des nations, des philosophes, des gens religieux, toutes sortes de choses en disant « mais moi je viens avec une vérité nouvelle », des faux prophètes, enfin tout ce que vous voudrez. Ouais. Mais quand même cette parole qui nous est laissée dans Jean, c'est Jésus qui l'a dit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et quand on aime la vérité, quand on a l'amour de la vérité, que l'on demande à Dieu qu'il nous donne l'Esprit de vérité, mais est-ce que l'on peut aller autre part que finalement, eh bien, de venir à Dieu et de recevoir sa grâce? Parce que c'est pas autre chose. Mais il faut prendre les choses à cœur, puisqu'il nous est dit, eh bien, je t'offre un vêtement nouveau. Je t'offre de l'or purifié. Je t'offre également, eh bien, un collier. Mais il y a une chose, repens-toi, il nous est dit. Repens-toi, c'est-à-dire sincèrement, sérieusement, parce que c'est l'unique porte. Et devant peut-être, quelquefois, une vie qui n'a pas été ce qu'elle aurait dû être, peut-être devant la connaissance que nous avons de ce que Jésus nous dit, quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », c'est-à-dire qu'il nous appelle à venir à lui. Il nous invite, et la porte est grande ouverte. Alors il y a une chose qui nous fait rentrer dans sa présence, c'est tout simplement de lui dire « Eh bien Seigneur, je reconnais mes fautes, je t'en demande pardon, et je te demande maintenant de me délivrer et de me pardonner de tous mes péchés. » Et ça, je peux vous assurer que le Seigneur, quand il entend de telles prières, il le fait, tout simplement, sincèrement, sérieusement. Et je termine, voici, dit l'Esprit, je me tiens à la porte et je frappe. La porte des cœurs, il s'agit. Hein. Ce n'est pas celle qui est derrière moi. Dieu frappe par sa parole, il interpelle par son esprit. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, en d'autres termes, se laisse persuader, comprend le bien fondé de l'appel qui lui est adressé, y répond, invite Jésus, alors... À ce moment-là, eh bien, le salut est là, le salut est réalisé, puisqu'il y en a un qui appelle et celui qui l'entend, il répond. Voilà la réconciliation, voilà véritablement l'effet de la grâce que Dieu nous donne. Mais je voudrais dire quelque chose, c'est que chacun reste libre de dire oui ou de dire non. On peut ouvrir la porte ou on peut la laisser fermer. Alors à ce moment-là, si véritablement nous répondons favorablement, la suite est c'est celle-ci, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui sera avec moi, ou je serai avec lui. Il y a une belle image de cette réunion, de cette union entre l'homme et son créateur, entre l'homme et celui qui l'appelle du haut du ciel, c'est qu'il y a cette image de l'intimité, de ce partage, de cette relation, intimité individuelle et personnelle avec Jésus. Comme dans l'Église primitive, tout au départ. La véritable Église de Jésus-Christ, et je conclue, est composée d'hommes et de femmes qui se sont repentis de leurs fautes, de leurs péchés. qui sont devenus des croyants d'expérience. Nous ne sommes pas à réciter un credo. Nous ne sommes pas des chrétiens de tradition parce que ceci ou cela. Nous sommes des croyants d'expérience. Nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et le Seigneur de notre vie. Alors, la question se pose, qu'est-ce que nous avons compris de l'Église ? Qu'est-ce que nous avons compris de cette communauté qu'est l'Église ? Pas un bâtiment, rien à voir, mais c'est un rassemblement d'hommes, de femmes qui ont en commun le salut en Jésus-Christ. Le salut en Christ, tout simplement. Et nous restons des hommes. Nous restons des humains sur cette terre. Dieu ne nous a pas demandé de quitter le monde, mais de rester dans le monde pour être ses témoins. Mais des témoins vivants, des témoins enthousiasmants, des témoins qui portent le sel et qui amènent la lumière dans un monde qui s'enténèbre de plus en plus. Alors, est-ce que nous serons laissés pour compte pour n'avoir pas voulu répondre ? Il y a une parole, et ce sera la dernière. C'est Jésus qui le dit dans le Sermon sur la montagne, Évangile de Luc au chapitre 6, quand il s'adresse à tous ceux qui ont qu'une apparence de christianisme, tous ceux qui ressemblent finalement que par les apparences au christianisme. Jésus dira ceci à ses détracteurs, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Parce que c'est ça. C'est une question de foi et une question d'obéissance à ce que Jésus nous demande. Alors, on va finir sur une note positive. Quand Jésus nous dit « Venez à moi », eh bien je crois qu'il est l'heure, il est temps de lui répondre et de pouvoir lui dire « Eh bien Seigneur Jésus, je viens à toi, sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi la vie, la vraie vie et donne-moi d'être un véritable chrétien, un enfant de Dieu dans ton Église vivante ». Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement prier maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as dit « Je bâtirai mon Église ». Alors c'est vrai, nous croyons que tu as continué à la bâtir. Oh, elle se bâtit, Seigneur, peut-être loin des grands chemins de ce monde. Elle se bâtit dans la discrétion. Elle se bâtit, Seigneur, en effet, là, Seigneur, d'une manière quasiment invisible. Mais nous croyons que tous les jours, sur la surface de notre monde, de notre terre, il y a probablement des milliers, des centaines de milliers d'hommes, de femmes, quelle que soit leur race, leur couleur, leur religion, d'une façon ou d'une autre, qui entendent parler de Jésus-Christ et qui vivent le christianisme, Seigneur, là, dans ses principes et dans l'esprit, Seigneur, de ses origines. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Nous croyons, Seigneur, que notre monde est un monde, Seigneur, qui ploie sous des traditions, sous des rudiments, qui ploie avec des philosophies, avec des inventions, avec toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec ta parole. Comme Jésus pouvait le dire à ses contemporains, les pharisiens et les autres, oui, tu nous dis, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais votre cœur est éloigné de moi. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas, Père éternel, que pour nous ce soit l'apparence, mais que ce soit la réalité. Oui, Seigneur, nous voulons être des chrétiens réalistes, des chrétiens de réalité, des chrétiens, Seigneur, qui vivons, Seigneur, à part entière, complètement, entièrement, notre engagement. Alors, Seigneur, je te demande que s'il y a des amis qui souhaiteraient, Seigneur, désireraient découvrir, redécouvrir, vivre ce christianisme des origines, tout simplement parce qu'il n'a pas changé, c'est toujours le même. Il est aussi pour l'homme du 21e siècle. Seigneur, la seule chose que nous ayons à faire, la seule chose qu'il ait à faire, c'est tout simplement venir à toi et te dire, Seigneur, je viens, prends ma vie, je crois que tu as donné la sienne pour que je puisse vivre l'éternité avec toi. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est une belle expérience. C'est quelque chose d'extraordinaire de connaître, Seigneur, la grâce de nous repentir, la grâce de nous convertir et la grâce de naître de nouveau et d'être une nouvelle créature dans cette Église qui est une Église, Père éternel, qui a en effet encore sa raison d'être et son travail, son œuvre de voir des hommes, des milliers d'hommes se tourner, venir, revenir. Seigneur, tout simplement à la source qui est Jésus, sa parole, la Bible, l'Évangile. Merci Seigneur. Amen. Amen.